dans la rue des bons enfants, on vend tout au plus offrant. Il y avait un commissariat et maintenant il n'est plus là.
Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Rue des bons enfants. Avant qu'on écoute ensemble notre premier entretien avec Dominique, petite explication sur la raison d'être de ce podcast. On est parti du constat que les luttes militantes, qu'il s'agisse de luttes anticapitalistes, féministes, antiracistes, antifascistes, LGBTI+, écologistes, syndicales mais pas que, ont besoin de s'intensifier mais aussi de se renouveler, de s'ouvrir à de nouvelles personnes et d'inventer de nouvelles façons de lutter. Oui, mais comment ? Pour répondre à cette question, on a choisi d'aller à la rencontre des militantes et des militants qui incarnent les luttes au quotidien, dans leur diversité d'être et d'action. On essayera de comprendre ce qui les anime, comment et pourquoi ces personnes luttent. On veut s'adresser à toutes les personnes concernées par ces luttes, pour vous donner matière à réfléchir et pour vous donner envie d'agir. Et aujourd'hui, on va échanger avec Dominique Malveau. Dominique a 65 ans, il est cheminot, retraité. Avant le nouveau parti anticapitaliste, il a été à la Ligue communiste révolutionnaire. Dans la foulée des grèves de 1995, il a participé à la fondation du syndicat Sudrail. Ses engagements prennent des formes assez variées aujourd'hui, mais il nous expliquera tout ça mieux que moi. On avait déjà beaucoup échangé, lui et moi, sur ces sujets, et c'est pour ça que j'ai eu envie de l'entendre pour ce podcast. J'espère que cela vous plaira. Si c'est le cas, pensez à partager, à nous laisser un message sur nos réseaux ou par email, à en débattre entre vous, et surtout, surtout, à refiler le lien à vos amis de droite. Oui, oui, vous aussi, vous en avez. Allez, c'est parti.
Dans la rue des bons enfants, viande à vendre aux plus offrants, l'avenir a Dieu en place et le vieux monde est à la casse.
Salut Dominique, comment ça va ?
Eh bien, écoute, très, très bien.
Alors d'abord, je te remercie de me faire l'honneur et l'amitié de participer à ce podcast. J'en profite aussi pour remercier Jean-Pierre à la technique. Alors, en une phrase, l'idée du podcast Rue des bons enfants, c'est d'aborder la question militante. Et aujourd'hui, je te propose d'aborder quatre thèmes. Parcours personnel et choix militant, rapport au travail et à l'emploi pour le militant, la militante, stratégie et tactique, et on terminera par l'évolution dans le temps des manières de lutter. Alors, première question, pourrais-tu décrire brièvement aux auditeurs et auditrices les différents engagements militants qui t'animent aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, depuis que je suis dans la Drôme, en fait, puisque à partir de ma retraite, je suis m'installé dans la Drôme, j'ai choisi délibérément de ne plus m'occuper de certains sujets et puis de plutôt de m'orienter sur d'autres. En arrivant dans la Drôme, j'ai choisi ce qui était pour plusieurs personnalités pour qui j'ai beaucoup de respect. Le sujet fondamental, militant, et je pense que c'est vraiment le cas encore aujourd'hui, qui est le thème du nucléaire. Puisque, en fait, derrière la société nucléaire, peut-être qu'on en reparlera, mais il y a une organisation de la société capitaliste, une organisation policière de la société, et puis une destruction écologique considérable, puisqu'elle n'est pas seulement temporalisée dans une période, mais un accident nucléaire, c'est pour des générations et des générations et des générations. Quoi. Donc on est vraiment dans un crime contre l'humanité quand on travaille sur le nucléaire. Voilà, donc c'est mon choix primordial encore aujourd'hui. Il a été d'ailleurs dans mon activité syndicale pendant un temps. Et puis, par ailleurs, j'ai été rattrapé, comme beaucoup de militantes et militants, par l'immigration, les exilés, parce que je faisais ça quand j'étais en région parisienne comme syndicaliste, et de fait, je voulais plus le faire, parce que ça prend énormément de temps et d'énergie et de morale. Et de fait, je m'y suis retrouvé obligatoirement. Et puis, j'ai toujours une activité politique, parce que il y a des gens ont deux conceptions de la politique, il y a le côté partisan, la famille, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon aspect. Je suis militant d'un parti politique, d'un syndicat, parce que c'est un intellectuel collectif, c'est-à-dire que j'aime bien l'échange et j'aime bien appartenir à une famille, non pas en famille sur laquelle on tient, mais une famille avec qui je peux échanger, développer, polémiquer et évoluer.
D'accord.
Ce sont mes choix militants d'aujourd'hui. Quoi.
Donc, tu as eu plusieurs phases, une première en région parisienne, puis une autre ici ?
à une première jeune, parce que je fais partie d'une génération, celle des années 70, où on commence à militer très très jeune. Hein. Donc en Normandie, et une période parisienne qui est la plus importante, bien sûr, qui est ma période professionnelle, et puis une période de retraité qui est aujourd'hui dans la Drôme. Quoi.
Et au départ, dans quoi as-tu commencé à t'engager ?
Bah, comme lycéen, paradoxalement, mon premier engagement militant, ça a été l'armée, puisque moi j'étais gosse d'ouvrier, très pauvre, et mon objectif c'était de faire de l'aviation, et quand on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de perspective, les seuls qui permettaient de faire de l'avion c'était l'armée, donc j'étais militariste, lycéen, j'arrive en première, terminale, je suis pour l'armée, quoi. Et puis à cette époque-là, dans les années 70, 73, 74, il y a beaucoup de conflits de lutte lycéenne contre l'armée, contre... Je rentre là-dedans, devant une assemblée générale de 1000 lycéens où j'explique que je suis pour l'armée, je me fais huer, et puis il y a des militants intelligents qui disent « mais non, il a le droit de parler », donc j'ai trouvé ça sympa. J'étais mis en minorité, mais finalement, bah, j'ai respecté la majorité, donc j'ai commencé à militer avec eux, et j'ai évolué comme ça. Quoi. Voilà. Donc, en fait, grâce à des militants qui avaient eu l'intelligence de ne pas rejeter quelqu'un, mais au contraire de dire bah, « il a le droit de parler ». Et ça va faire un peu, effectivement, ma conception militante pendant très longtemps.
Et autant que tu te souviennes, il y a eu un élément déclencheur qui a accéléré tes engagements.
Alors ça, là c'est une question tellement générale, enfin, c'est une question générale et en fait qui est celle de tous et toutes. L'élément déclencheur, il est le fruit de plein de choses, des problèmes individuels, de l'individu lui-même, de sa classe sociale dans laquelle il est. Moi, je dirais que mon élément déclencheur, il est issu de ma classe sociale quand même, quoi. C'est-à-dire que quand on est un gosse ouvrier, en tout, j'ai lu beaucoup de chez Onfray que je n'apprécie pas du tout aujourd'hui, mais qui est du même milieu social que moi, en plus de Normandie comme moi, dit à peu près les mêmes choses. Et puis j'ai lu plusieurs autres intellectuels de gauche ou d'extrême gauche qui disaient issus du même milieu ouvrier que moi. C'est au début on était hostile à notre milieu, c'est-à-dire qu'on en avait honte. Et puis à un moment donné on s'est rendu compte de toute la richesse qu'il y avait dans ce milieu-là et on se l'est accaparé. Et mon évolution militante est arrivée. Alors, est-ce que c'est le militantisme qui m'a amené à ça ou est-ce que c'est ça qui m'a amené au militantisme? Je ne suis pas très capable de le dire en fait, mais je pense que c'est concomitant. Mais très vite après, je suis devenu fier de ma classe sociale et ça a accompagné mon militantisme.
D'accord, donc c'est à la fois une transmission, on va dire, de génération en génération, et aussi par le biais, une transmission plus horizontale par les...
De génération en génération, non, parce que classe sociale, oui, mais pas militante. Hein. Mes parents à moi n'étaient pas politisés, d'accord, étaient même plutôt gaullistes, de droite, etc., antigrévistes et tout. Quoi. Donc c'est, ça ne vient pas des parents, mais ça vient du milieu social, comment on vivait, nous. Et par rapport, quand tu es lycéen, enfin, quand déjà, dans les années 70, quand tu es gosse d'ouvrier en première ou en terminale, tu es déjà 3% de la classe, hein. Les autres appartiennent à d'autres classes sociales. Donc, à ce moment-là, tu te rends compte que tu appartiens à une classe sociale qui est méprisée. Et soit tu aspires à être comme les autres, ce qui était le cas au début, soit à un moment donné, tu es fier de ton statut. Et là, j'ai commencé à militer en devenant fier de mon statut de gosse ouvrier.
Cette dimension de voir la société à travers le prisme des classes, est-ce que tu as l'impression que cette vision a évolué depuis le début de tes engagements par rapport à aujourd'hui ?
Alors, pour ce qui me concerne, non, bien sûr que non. Mais y compris dans l'évolution de jeunes d'aujourd'hui, je pense que c'est le même problème. Quoi. C'est-à-dire que c'est plus tard qu'on s'aperçoit qu'on a réagi en termes de classe en lisant. Au début, on n'a pas cette notion de classe. On a un ressenti, mais on le traduit pas. En termes de classe, quand j'en parle là maintenant, je le traduis après ce que j'ai lu après. Mais à l'époque, je le vivais pas en termes de classe. Je vivais en termes d'existence. Les autres pouvaient faire plein de choses que je ne pouvais pas faire. Les autres connaissaient des choses que je ne connaissais pas. Les autres savaient des choses que je ne savais pas. Donc c'était ça en fait la notion de classe. Alors ça, maintenant que je connais d'autres choses, je sais que ça existe, que la notion de classe existe, etc. Oui, non, mais c'est par contre effectivement fondamentalement encore aujourd'hui, j'appartiens à une classe sociale, je suis militant d'une classe sociale, ça c'est très clair. Quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui la classe ouvrière, c'est extrêmement, alors pour utiliser les termes actuels, racisé. Une partie importante de la classe ouvrière est issue de l'immigration. Et du coup, on ne les considère pas comme les ouvriers. On a encore l'image de l'ouvrier blanc de Renault dans les années 30. Quoi. Non, la classe ouvrière aujourd'hui, elle est extrêmement issue de l'immigration. Et eux, aujourd'hui, on ne les écoute pas. Mais quand on écoute une humoriste de France Inter à Aram, là je ne me souviens plus de son prénom,
Sophia, non ?
Sophia Aram, etc., ou d'autres, ben on s'aperçoit que cette notion de classe, il l'exprime tout de suite. Donc ça existe toujours, ça.
Ok.
Alors peut-être moins chez des jeunes blancs, parce qu'il y a une dissolution de la société aujourd'hui, on s'habille tous pareil, etc. Le fait d'aller à l'école un peu plus longtemps, parce qu'auparavant, un gosse de la classe ouvrière blanche, il passait le certificat d'études, puis il allait bosser, quoi. Bon, il n'y a plus tout ça, donc effectivement, ça s'est probablement un peu dilué, mais en fait, quand on se rend compte, notamment chez les gens issus de l'immigration, ce phénomène, ce que j'ai ressenti, moi, je le réentends dans les discours de plein de jeunes intellectuels issus de l'immigration en France, quoi. Ils disent la même chose que moi.
Alors, je te propose qu'on passe au deuxième thème, la question du rapport au travail et au rapport à l'emploi pour le militant et la militante. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble de... Enfin, je vais d'abord te faire écouter un extrait de Joanne Chapoutot, auteur de « Libre d'obéir », sous-titré « Le management du nazisme à aujourd'hui ». Donc, il déclarait ceci à propos des travaux d'Isabelle Ferreras, autrice du livre « Le manifeste travail » dans « Entendez-vous l'écho » sur France Culture en décembre 2020.
Ce qu'elle dit est très important. Elle dit d'abord que l'entreprise est un lieu politique. Il y a toujours cette idée de la part des économistes, mais également des spécialistes de sciences de gestion, souvent qui arguent du fait que le lieu économique serait un lieu technique, neutre, soustrait aux lois sociales habituelles. Non, c'est un lieu politique, puisqu'il y a des individus qui y vivent et qui devraient pouvoir décider de ce qu'ils font. C'est la sociologue Danielle Linhart, qu'Isabelle connaît bien, hein, qui le dit de manière très... très clair. Nous vivons en démocratie, dit-elle, c'est-à-dire dans un lieu où on est autonome, où on peut définir ses propres fins, on se gouverne soi-même, mais nous passons beaucoup de temps au travail. Or, ce lieu de travail est généralement défini par le contrat de travail qui lui-même repose sur le lien de subordination. Donc il y a un angle mort dans la vie économique, qui est la vie économique, la vie productive, et qui est soustrait aux lois de la démocratie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante dans ce que disait Isabelle, c'est que la structure de l'entreprise n'est pas neutre. Effectivement, la société anonyme, c'est une structure qui ventile le capital et qui organise le capital. Ce qu'il est très important de penser aujourd'hui, c'est une autre structure sociale de l'entreprise qui serait également liée à un autre objet social. Parce que l'objet social de l'entreprise aujourd'hui, c'est constitution d'un profit, la réalisation d'un profit. Or, la vie ne peut pas se réduire à ça, la vie au travail non plus ne peut pas se réduire à ça, et lorsque l'on parle du sens au travail et des risques, enfin des dommages psychosociaux induits par l'absence de sens au travail, eh bien on est en plein dans cette question de l'objet de l'entreprise qui doit être, l'objet social de l'entreprise qui doit être redéfini par et pour les travailleurs.
Qu'est-ce que cela t'évoque ?
Oh oui, je partage complètement ça. J'aurais tendance à dire que j'ai pas écouté cette émission, mais il me semble qu'il était même allé plus loin. Mais en tout cas, je partage complètement ça. C'est évident que c'est un lieu politique, l'entreprise. Moi, quand je suis rentré à la SNCF, je me suis vite rendu compte que c'était un lieu de formation politique d'ailleurs pour les gens et un lieu politique dans le rapport à l'encadrement. La SNCF était une entreprise extrêmement militarisée. Où tout était géré par... On logeait dans la SNCF, on travaillait à la SNCF, on allait faire nos courses dans les magasins de la SNCF, on était vraiment encasernés, quoi. Je raconte souvent que 2 ans après, quand je suis parti à l'armée, la seule différence que j'ai vue entre la SNCF et l'armée, c'est qu'à la SNCF, je logeais dans un foyer où on était 3 par chambre, et à l'armée, on était 6 par chambre. C'est la seule différence que j'ai vue entre mon service militaire et la SNCF. Donc on voit bien que c'est un lieu fondamentalement politique. Ce que ne dit pas l'intervenant, là, c'est que non seulement c'est un lieu politique, mais c'est un lieu politique dictatorial, où le respect de la loi, des lois de l'extérieur, ne sont même pas adoptés. C'est-à-dire qu'on est en permanence sous un régime de dictature dans l'entreprise. On n'a aucun droit. Et on le voit bien quand on est... J'ai été après, plus tard, juge au prud'homme. J'ai vu combien... La position patronale est une position dictatoriale. On n'est pas dans une démocratie politique dans l'entreprise. On est dans l'antithèse de la démocratie politique.
Du coup, est-ce que tu penses que le travail et l'emploi peuvent constituer des moyens de lutte? Est-ce que par le biais de son emploi et de son travail, on est d'une certaine façon engagé, militant, militante?
Alors, après, ça dépend des individus, mais le travail dans les rapports de force, il est par contre très important. Si on considère que les luttes sociales, que les changements possibles dans la société, les changements sont toujours faits par des heurts, en général, par des rapports de force. Donc, eh bien, il est évident que avec l'avènement de la propriété privée, des moyens de production, pas seulement des moyens de production agricole, mais des moyens de production technique, donc l'avènement du capitalisme, le pouvoir s'est fait dans les entreprises, les patrons pour tenir les couches populaires sous leur joug, quand ils pouvaient, et les révoltes, justement, quand elles faisaient éclater ce joug, et donc ça commençait dans l'entreprise. On peut considérer que les premières grandes révolutions se sont faites, que ce soit la révolution russe ou les suivantes dans le XXe siècle, sont faites à partir des entreprises, c'était les bastions. Ce qui pose d'ailleurs la question aujourd'hui de comment des révoltes peuvent se faire alors qu'on est en train de détruire la grande entreprise, qu'on est en train de l'informatiser, de la disperser dans les nuages du net, où il n'y a plus ces lieux de rencontre massifs, parce que la classe ouvrière du XXe siècle, c'est une classe ouvrière massive, avec des milliers d'ouvriers dans un même lieu, etc., qui se formaient, qui se révoltaient ensemble et tout ça. Est-ce que ça pourra toujours exister? Oui, ça existera, mais sous d'autres formes, mais ça existera quand même. Mais en tout cas, c'est certain que l'entreprise telle qu'on la conçoit encore aujourd'hui, celle du XXe siècle, était le lieu de l'émergence des révoltes sociales, de la construction des révoltes sociales, de la construction des utopies aussi. Oui, incontestablement. Quoi.
Mais donc là, ce que je comprends, c'est que tu parles davantage de militer au travail plutôt que de militer par le biais du travail et par l'objet social de l'entreprise.
Les militants ont souvent, en tout cas pour ceux issus de la classe ouvrière, je ne parle pas des intellectuels qui ont rejoint le camp de la classe ouvrière, mais les militants de la classe ouvrière, c'est par le biais du travail qu'ils ont commencé à militer, à se former. Qu'après, ils soient sortis de ce champ pour aspirer à d'autres pouvoirs, je veux dire entre parenthèses, mais au départ, c'est au niveau de l'entreprise que ça s'est fait. Des centaines de milliers de militantes et militants sont nés dans les creusots du travail, dans les mines, dans la chaîne, dans les usines, sur les chantiers, etc. quoi.
Concernant le rapport entre le travail et les convictions personnelles politiques, est-ce que tu as déjà rencontré des militants ou des militantes, ou bien toi-même, qui n'arrivent pas à concilier leurs convictions personnelles et politiques avec leur métier?
Ah oui, j'en ai rencontré, malheureusement, parce que j'ai rencontré des gens qui, dans leur jeunesse, étaient des militants très radicaux, même plus radicaux que moi, quand ils étaient étudiants, etc. Et une fois rentrés dans le cadre professionnel, d'abord ont arrêté de militer pour certains, sont passés de l'extrême gauche à une gauche plus molle, etc., parce que leur tâche sociale était devenue celle de garde-chiourne des ouvriers. Donc, de fait, ils étaient en contradiction. Soit ils abandonnaient ça, soit ils le faisaient, même de façon plus humaine que d'autres, peut-être, quand même. Mais quand ils passaient du côté du fouet, de l'autre côté du fouet, du côté du manche du fouet, ces gens-là évoluaient, bien sûr. Et donc, j'ai des gens qui sont restés, pour certains, des connaissances. Je dirais peut-être plus des amis, mais en tout cas des connaissances aujourd'hui, avec qui j'ai pas toujours rompu, mais qui sont passés effectivement de l'autre côté du manche du fouet, quoi, c'est clair. Donc le milieu, le travail, etc., change les rapports sociaux, ça c'est évident, quoi. Le travail, de toute façon, est dans la société capitaliste aujourd'hui, dans l'organisation de la société industrielle, le travail est de toute façon un critère de pouvoir, de reconnaissance et d'action. Donc on agit en fonction de son rôle social dans l'entreprise, malheureusement.
Alors j'aimerais bien maintenant passer à un autre thème, alors là qui concerne moins, enfin qui va concerner plus directement les organisations, les groupements militants et les questions des objectifs, des stratégies et des tactiques. Comment définissez-vous collectivement les stratégies et les tactiques à adopter au sein des groupements auxquels tu prends part?
Alors, quand on est militant d'un parti politique, dans ces cas-là, j'imagine que c'est un peu ça la question.
Non, pas. Enfin, ça peut être au sein d'un parti, mais de tous les autres types de groupements, qu'ils soient formels ou informels.
Ben, j'imagine pour des gens qui ne sont pas militants d'un intellectuel collectif et qui sont donc en tant qu'individu dans un regroupement associatif, militant. Là, je suis sur le nucléaire, par exemple, dans un collectif anti-nucléaire. Je pense que les gens interviennent en tant qu'eux-mêmes et donc avec leurs idées. Ils ont donc une certaine liberté de parole parce qu'ils développent leurs idées. Et y compris d'ailleurs, ils développent toute l'absence de réflexion collective qu'ils ont dans leur groupe militant. Quand on est militant politique, c'est un peu différent. On appartient à un intellectuel collectif, donc on a déjà élaboré un certain nombre de positions, de stratégies, d'orientations. Et ensuite, on est dans des associations et comment on agit. Et là, il y a le pire et le meilleur, en fait. Il y a vraiment le pire et le meilleur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent avec leur drapeau et qui considèrent que tout ce qui n'est pas leur drapeau n'est pas bien. Il y a des gens qui manipulent. Et puis, il y a ce que moi, j'ai toujours essayé de faire, c'est à la fois profiter de la formation de mon intellectuel collectif qui était mon parti et en même temps d'avoir un énorme respect pour l'association dans laquelle je milite. C'est pas simple. Alors il y a quand même des règles, hein, que le mouvement ouvrier s'est donné. Hein. Par exemple, on peut pas être secrétaire d'un syndicat et être un élu politique. Voilà, et ça me paraît quelque chose de sain. On peut pas et on ne doit pas être le porte-parole d'une association, Stop Nucléaire Dromardèche par exemple, et être un représentant politique élu ou un dirigeant politique local. C'est pas tenable. Voilà, il y a ce respect d'un certain nombre de règles comme ça entre les politiques, les syndicalistes, les associations.
Mais il y a malgré tout un continuum entre l'action politique au sein d'un parti et l'action aussi politique sein d'autres types de groupements.
Sinon, ce serait une position schizophrénique si jamais on développait des positions différentes à droite à gauche. On n'est pas schizophrène, on a une certaine logique, mais une logique qui fait que ce qu'on peut penser et construire dans un intellectuel collectif assez cohérent. Et ensuite, quand on rentre dans le monde, le monde vrai, quoi, qui sont les associations, les syndicats, le magasin du coin, etc., on va rester sur une même ligne, sur une même trajectoire, mais on ne va pas l'expliquer de la même façon. On ne va pas imposer les mêmes rythmes. On va même moduler les rythmes, etc. C'est ça, la politique, en fait. C'est savoir parler aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous.
Et concrètement, si on prend l'exemple de la lutte pour les droits des exilés, le combat se déroule comment ?
Ben d'abord, les exilés, on va pas leur demander d'être d'accord avec nous. D'ailleurs, moi, je sais très bien que beaucoup d'exilés que je défends aujourd'hui auront des papiers français un jour, deviendront français ou leurs enfants seront français et voteront peut-être Front National. Le nombre de Portugais, Italiens, etc., qui votent Front National aujourd'hui est incommensurable. Et pourtant, à un moment donné, ils ont été défendus par des militants comme moi, contre le racisme, pour leur droit à vivre en France, etc. Donc, on va pas défendre des gens en leur disant « Maintenant, tu vas rester quelqu'un de progressiste, de gauche, etc., toute ta vie, puis tes enfants aussi, etc. » Donc voilà, on défend des idées. On défend des conceptions de la vie, on défend une société dans laquelle on a envie de vivre, c'est-à-dire une société accueillante. Et on ne va pas demander aux gens de nous rendre des comptes, même si on les a soutenus. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je n'ai jamais reproché à quelqu'un que j'ai pu défendre, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit aujourd'hui avec les exilés, le fait après de n'avoir pas été de mon côté. Voilà. La première chose, c'est ça. La deuxième, c'est... Alors sur le problème des exilés, c'est là l'importance de la formation politique et puis de l'organisation politique. Moi, je tiens vraiment à mon intellectuel collectif parce que il me permet de, malgré le fait que dans la société aujourd'hui, ce soit une lutte qui est très mal vue, qui est très difficile à expliquer, qui est souvent rejetée, ma formation politique, mon parti politique aujourd'hui me pousse à conserver cette bataille-là, qui est une bataille pas facile parce qu'elle est minoritaire, pas facile parce qu'elle est rejetée par les médias en général, par la société en général, même des gens sympas, même mes collègues de travail. ça nous oblige à faire, donc à mener des luttes qui sont peut-être pas des luttes visuellement positives, mais qui sont nécessaires.
Mais pourquoi est-ce que, d'après toi, pourquoi est-ce que ces luttes sont mal vues, minorisées ?
Parce que la nature humaine déteste l'étranger, déjà. Normalement, le voisin, on ne l'aime pas, quoi. Donc, on s'appuie déjà sur un sentiment humain qui est assez évident. Ensuite, parce que les gens qui dominent les sociétés actuelles ont tout intérêt à diviser les pauvres. Or, la meilleure division des pauvres, c'est de les diviser pour les diviser entre eux, c'est déjà de jouer sur leur couleur de peau, sur leur culture, sur leur religion, sur tout un tas de choses comme ça. Donc, les gens qui nous dominent, les gens qui nous dominent sont très peu nombreux. 1%, 2, 3% de la population. Ils s'appuient sur une masse de gens qui concernent à peu près 20% de la population à qui ils ont donné beaucoup d'argent, ce qu'on appelle les couches moyennes, etc., supérieures et tout. Donc ceux-là, on les paye, quoi. On les paye pour être au service des riches. Et puis les autres, c'est un danger public. Et ils sont très nombreux. Si on laisse ces gens très nombreux s'unir, le système ne fonctionne plus. Donc il faut diviser ces gens-là. Et la division la plus simple, c'est celle sur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la religion, le masque, la façon de s'habiller. Donc ça, il faut savoir que quand on lutte contre ça, on lutte contre ce qui est fondamental dans le maintien de la société dominante, c'est-à-dire la division.
Je reviens sur la lutte pour les droits des exilés. Comment concrètement je suis pas sûr d'avoir bien compris cet élément. Comment est-ce que le combat se déroule sur le terrain ?
Sur le terrain, bon, après ça c'est toujours une lutte très difficile parce que on est affaire à des gens qui sont démunis, qui ne connaissent pas les codes de la société dans laquelle ils viennent d'arriver. Donc encore plus démunis, alors démunis financièrement, démunis au niveau de la culture, démunis au niveau de la langue, démunis parce que dépendant de toute l'administration, c'est-à-dire que le moindre petit tampon sur un document devient quelque chose de phénoménal. Et nous, on est au milieu de ces gens-là, on est là pour les conseiller, on est là pour vivre leur désespoir souvent, hein. Donc on rentre le soir des fois avec la sonde de désespoir de tous les gens qu'on a rencontrés. Et puis, avec aussi leurs espoirs, leur dynamisme phénoménal. Parce que, franchement, pour être un exilé, il faut avoir un sacré taux de caractère, quoi, quand même. Hein. Quitter son pays, sa famille, etc. Traverser des pays pas possibles et tout. On a beau être poussé des fois par la guerre, par la misère, par la faim, il y a quand même plein de gens qui restent sur place, quoi. Donc ceux qui partent sont quand même des gens d'une richesse étonnante. Et cette richesse-là, nous, on la reçoit aussi, quoi. Donc voilà, militant sur ce terrain-là, c'est à la fois on se chope des moments de désespoir qui sont les leurs, et puis on se chope aussi leurs espoirs et leur dynamisme. C'est par contre très gratifiant.
Et de façon plus large, les outils et tactiques utilisés sont-ils les mêmes suivant que tu te situes dans la lutte politique, ou bien dans la lutte antinucléaire, ou bien dans la lutte syndicale, ou bien pour les droits des exilés ?
Alors là, quand j'ai vu on peut le dire, hein, tu m'avais donné quelques écrits avant, là j'ai beaucoup souri à cette question-là parce que je me dis, je ne vais pas te donner les recettes, ou donner aux auditeurs les recettes. Non, avec l'expérience, quand on milite, on essaye de... Bon, moi, je suis un peu joueur d'échecs, alors j'ai souvent tendance à faire appel au jeu d'échecs. Quoi, on essaye d'abord d'écouter l'adversaire, de comprendre sa logique, et donc de voir qu'est-ce qui cloche dans sa logique sur lequel on peut s'appuyer. Et ça, c'est valable dans la lutte syndicale, c'est valable dans les luttes sur le nucléaire, c'est valable dans les luttes avec les exilés. Voilà, c'est valable dans toutes les luttes en fait. C'est-à-dire, si on commence à détester, mépriser sous-estimer son adversaire, on a perdu. Si on laisse de côté la détestation, le mépris, et qu'on essaye de comprendre comment il pense et il fonctionne, là par contre on trouve des failles, et à ce moment-là on s'engouffre dans ces failles. J'ai toujours essayé de militer comme ça, c'est-à-dire à avoir des avancées. Et souvent, on ne change pas tout. Hein, quand un individu ne change pas toute la société. Donc on sait très bien qu'à nous tout seuls, on ne va pas changer toute la société. On ne va pas faire la révolution tout seul. Quoi. Mais, et puis on ne va pas attendre que la révolution arrive pour bouger. Donc pendant cet énorme espace de temps où il n'y a pas encore la révolution qui fait tout changer et où tout seul, on ne peut pas tout faire tout seul, bah on essaye de faire des choses, des petites batailles que l'on gagne. Et ces petites batailles que l'on gagne, bah on les fait en étudiant l'adversaire et en regardant quelles sont ses failles.
Bah alors justement, on fait parfois le constat, bah moi le premier, que telle ou telle action, que ce soit une manifestation, un city, une action de désobéissance civique, par exemple, a des effets, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux qu'on a identifiés. Qu'est-ce que tu répondrais à ce constat d'impuissance, de découragement ?
Bah parce que des gens ont pensé que parce qu'un truc, dans un moment donné, dans une lutte donnée, à un moment T donné, etc., a fonctionné, ils s'imaginent d'après que c'est une recette et vont le reproduire. Eh ben non, justement. Ça peut des fois se reproduire positivement, hein, d'ailleurs, hein, parce que pendant une période, une forme de lutte peut avoir un impact et donc se continuer. Mais au bout d'un moment, l'adversaire, il a trouvé une parade. Et si on continue à répéter ce qui avait marché, bah, ça ne marchera plus.
Mais tu as un exemple justement de tactique qui a marché pendant un temps, puis ensuite ça n'a plus marché.
On va regarder le mouvement climat aujourd'hui. Les mobilisations du mouvement climat, il y a depuis la COP21, ont plutôt bien fonctionné, ont attiré plein de jeunes, ont des mobilisations importantes, etc. Et on voit bien aujourd'hui que ça commence à s'essouffler et que les méthodes qui étaient valables il y a encore 5-6 ans ne le sont plus. Voilà. Donc, si un mouvement social n'est pas capable, justement, là encore une fois, de regarder quel est son adversaire, de regarder quels sont ses points faibles et d'agir en fonction de ça, eh ben, ce mouvement social s'épuise. Alors, il aura eu des victoires avant et risque d'aller vers des échecs s'il n'est pas capable d'évoluer. Et c'est là que les militantes et militants ont peut-être un rôle, soit en entraînant les gens dans l'erreur, soit en disant bah, il faut penser différemment. En fait, il faut penser tout le temps différemment.
Je vais te poser la question, à quoi ça sert la manifestation, à quoi ça sert la grève ? De quelle manière, d'après toi, ces pratiques ont évolué au cours du temps ?
Alors, à quoi ça sert ? C'est la conversation tout de suite, là. C'est des fois à rien, deux fois à tout. Voilà. Il y a des fois on fait des manifs pour rien qui sont ridicules, qui sont y compris d'ailleurs même on se dit pourquoi on l'a fait, parce qu'on est en train de montrer à l'adversaire qu'on est faible. Et puis à d'autres moments des manifestations ont tout changé, donc il n'y a pas de recette. Voilà, des fois la manifestation n'est pas nécessaire et des fois elle l'est, et c'est pareil pour la grève. Dans ma vie professionnelle, en 37 ans de cheminot, j'ai fait des grèves et des fois j'ai même dit on ne fait pas la grève. Et pourtant j'étais considéré comme un gréviculteur. Hein. Mes patrons ils m'appelaient le gréviculteur. Quoi. En gros il vient là c'est pour foutre faire la grève. Et ben ça m'est arrivé face à des entreprises de nettoyage, comprenant que la grève ne serait pas le rapport de force, parce que les gens étaient trop fragiles, parce que leur contrat était trop dur et que la grève maintiendrait pas. Eh bien, face aux quelques les plus motivés qui voulaient la grève, je disais non, on ne va pas faire grève, on va faire autre chose. Et on discutait de ce qu'on pourrait faire autre chose que la grève. Donc voilà, il n'y a pas de recette, en fait, de militantisme. Donc, ceux qui disent qu'aujourd'hui, la grève, la manif et tout ça, c'est dépassé et tout ça, ces gens-là n'ont peut-être pas tort à l'instant T, mais font une erreur s'ils en font une analyse globale. Parce qu'aujourd'hui, ils sont peut-être dans le vrai, mais dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ils ne seront peut-être plus dans le vrai.
Mais aujourd'hui, sur la grève en tant qu'outil, avec, on va dire, l'atomisation des entreprises, avec des entreprises bien plus petites qu'avant, moins de gros groupes avec des mouvements ouvriers très massifs, du coup, peut-être que cet outil perd aussi de sa force à cause de ça.
Alors, il perdra. La grève telle que ma génération l'a connue, ce qui était encore la grève des gros bastions, hein, et le dernier bastion, c'est celui des cheminots, encore, on peut dire aujourd'hui, hein, qui est là largement affaibli, hein, depuis 2-3 ans. Cette forme de grève va sans doute un peu évoluer, mais on voit apparaître d'autres formes de grève qui sont redoutables. Les délivrés où, là, les jeunes qui ont fait des mouvements de grève, là, qui s'apparentent assez. En fait, qui sont plus proches des grèves des premiers mineurs des années du 19e siècle. Hein. Quand on regarde leur organisation et qu'on lit comment les premiers mineurs ou les premiers ouvriers se sont organisés, on se dit, mais c'est la même chose. Parce qu'en fait, moi j'ai connu une période, le 20e siècle, où la classe ouvrière est concentrée. Mais la situation qu'on vit aujourd'hui ressemble beaucoup plus à celle du 19e siècle, quand s'est constitué les premiers syndicats et les premiers partis politiques de révolutionnaires. qui n'était pas du tout une classe ouvrière concentrée, qui était une classe ouvrière extrêmement dispersée, comme elle est aujourd'hui. Enfin, comme elle commence à le devenir aujourd'hui. Donc en fait, cette dispersion de la classe ouvrière aujourd'hui va changer nos recettes du XXe siècle, probablement, qui vont être moins efficaces à modifier. Mais en fait, dans notre histoire, parce que c'est ça aussi, appartenir à une classe sociale, on en parlait au début, c'est avoir des racines. Et moi, mes racines, elles vont jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et je regarde maintenant comment luttaient les ouvrières et ouvriers au XIXe siècle face à une entreprise très dispersée, comme aujourd'hui. Donc en fait, on va peut-être aller rechercher des recettes il y a 100 ans.
Bon, j'allais venir justement sur le thème de l'évolution dans le temps des manières de lutter. Alors je voulais revenir sur un mouvement social d'ampleur comme celui contre la réforme des retraites qui a commencé le 5 décembre 2019. Avec un mouvement de grève reconductible suivi à la SNCF, la RATP, l'Éducation nationale, EDF et dans bien d'autres secteurs. Penses-tu que l'efficacité de ce type de mouvement a évolué au cours des dernières décennies et comment est-il possible de comment est-il possible de réunir les conditions qui permettent l'apparition de ce type de mouvement?
Moi, à la dernière question, je suis incapable de répondre parce que c'est du cas par cas à chaque fois, quoi. Ce qui est certain, c'est que la grève des cheminots de l'année dernière, cheminots de l'année dernière, avec des enseignants, avec les médicaux et tout ça, était probablement une des dernières porteuses encore d'une mobilisation de masse de secteurs professionnels encore consistants. Hein, les enseignants, la santé, le rail, il y a encore du monde derrière, quoi, hein, c'est 100, 200, 300, 400 000, 500 000 personnes. Donc ça peut jouer quand même sur les rapports de force encore sur la société. Bon, on ne saura jamais là, puisque du coup le Covid a tout arrêté, hein. On est bien clair. Mais, et depuis, la SNCF d'ailleurs fait tout pour maintenant casser l'entreprise. Hein, ils profitent des deux années là, qu'ils ont de Covid pour démanteler, pour casser justement encore ce bastion qu'est le rail. Et puis dans la santé, ils font pareil hein, aujourd'hui. Et dans l'enseignement aussi d'ailleurs. Mais bon, ça ne veut pas dire que ces bastions-là ont encore perdu toute leur force. Donc je ne sais pas. Je suis incapable de dire.
Il y a encore le gaz et l'électricité, non, qui pourraient...
Il y a longtemps qu'ils l'ont perdu. Hein. Ils l'ont perdu, alors là, pour d'autres raisons. Mais il y a longtemps qu'ils l'ont perdu, d'abord parce qu'ils représentent beaucoup moins de monde, hein, beaucoup moins de salariés. Ensuite, parce que leur effet sur la... C'est plus devenu des services publics, la privatisation a énormément de... C'est-à-dire que même si EDF se met en grève aujourd'hui, il y a plein d'autres distributeurs. Et ils ont... C'est le cas de la Poste aussi, où maintenant on a cassé ces énormes services qui avaient un poids social et qui l'ont plus. Donc leur force par rapport à la société est quand même amoindrie. Ils peuvent se battre, hein, ils se battent énormément à l'EDF aujourd'hui, mais moi j'ai connu quand j'étais gamin, EDF se mettait en grève, il n'y avait plus de courant nulle part, quoi. Ben aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Donc, on le voit bien que c'est quand même plus la même force, quoi. Par contre, un phénomène, lui, qui n'existait pas à une époque, est en train de se développer. C'est-à-dire que des luttes sociales deviennent des conflits globaux. D'un point de vue, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas dans ce secteur-là deviennent solidaires de ce conflit. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance aujourd'hui à se faire. Et qui ressemble un petit peu aux grèves du 19e siècle. Les premières grèves de mineurs, etc., quand on l'isola. C'est-à-dire, tu as un corps social qui rentre en lutte, mais il est très vite rejoint par un ensemble de la société. Alors, c'était à l'époque sur un bassin minier, sur une région administrative. Aujourd'hui, ça peut être sur l'ensemble du territoire. Et on le voit avec la lutte des Total, là, des gens de Rouen, là. Il y a eu un soutien qui est parti dans plein d'endroits.
C'est un genre de convergence des luttes ou tu utilises...
Pas de convergence des luttes, c'est plutôt de... Nous, on l'avait connu en 95 avec les cheminots. Je vais essayer de l'expliquer comme ça. Le début de la grève de 95, pendant une semaine, on disait qu'on était cheminots, on se faisait lapider. Et à un moment donné, l'opinion publique a plus pensé que c'était de la faute des cheminots qui n'avaient plus de train, mais que c'était de la faute du gouvernement. Ça s'est basculé très vite. Et très vite, nous, on a vu le changement dans l'opinion publique. C'est-à-dire, on disait qu'on était cheminots, on nous disait « mais vous voulez que je vous emmène ?» Et je ne blague pas quand je dis ça. Hein. Moi, je faisais du stop en banlieue parisienne pour aller à mes assemblées générales et tout ça. Et j'aurais jamais osé dire que j'étais cheminot la première semaine. J'ai même failli me faire lapider un garçon Lazare par des voyageurs, quoi, la première semaine de grève. Mais après, c'était un accueil phénoménal. Bon, l'opinion publique. Et là, on est une société de communication énorme. Et l'opinion publique devient quelque chose de très fort. À regarder ce qui se passe en Indonésie aujourd'hui, par exemple, où l'armée fait un coup d'État et elle a énormément de mal, malgré les chars, malgré les fusils et tout ça, à dominer une population. On l'a vu dans les révolutions arabes il y a 10 ans, etc. Donc il y a des nouvelles formes de révolte qui sont en train de s'emparer de la société aujourd'hui, qui peuvent être, qui sont liées énormément à l'opinion. Alors peut-être que ce sera ça qui sera un des changements, mais là je me trompe peut-être. Mais en tout cas, je regarde ces formes de lutte aujourd'hui avec beaucoup d'attention.
Alors j'aimerais revenir sur sur un moment important de la lutte antinucléaire, donc la mobilisation populaire contre le projet de centrale nucléaire de Plogov entre 1978 et 1981, mobilisation qui a abouti à l'abandon du projet. Est-ce que tu pourrais nous rappeler brièvement ce qui s'est passé et quels sont les éléments, là encore une question difficile, qui, d'après toi, réunis, ont permis une mobilisation victorieuse?
Alors, moi j'ai tendance à dire, j'ai commencé à militer avec Plogov, moi, et à m'intéresser un petit peu au sujet du nucléaire à ce moment-là. Nous, on construit aussi une histoire de nos luttes. Hein. Donc aujourd'hui, les générations actuelles disent, Plogov, le Larzac, c'est des victoires, quoi. Oui, c'en est. Mais il y a eu plein d'échecs aussi. Hein. Et il y a eu, par exemple, dans la Drôme, beaucoup de luttes contre l'implantation des centrales nucléaires. Elles ont échoué. Il y a eu, dans le Cotentin, une très grande lutte avec la même mobilisation populaire qu'en face, en Bretagne. Et ils ont échoué. Et maintenant, ils ont un EPR et un centre d'enfouissement, enfin, un centre de retraitement, etc., des déchets radioactifs, la Hague. Donc, on a perdu dans plein d'endroits, quand même. Hein. Là où on a gagné... c'est pas la mobilisation populaire qui a fait gagner. Mitterrand n'aurait pas été élu, il y aurait eu une centrale nucléaire à Plogov et il y aurait eu un camp militaire au Larzac. C'est-à-dire que, par contre, la lutte, elle a servi à une chose, c'est qu'elle a pesé sur les forces électorales qui ont pu gagner et qui ne pouvaient pas, après, ne pas respecter leurs engagements. Donc la lutte a permis ça. La lutte du Larzac, la lutte de Plogov ont gagné parce qu'ils ont fait pression sur la gauche et quand la gauche est arrivée au gouvernement au bon moment, ils ont pu arrêter. Mais ça ne fait pas oublier que c'est Mitterrand qui a arrêté Plogov et le Larzac, mais c'est Mitterrand qui a construit la majorité des centrales nucléaires ailleurs.
Mais tu parles de pression, mais c'est une pression qui vient non pas uniquement d'une base militante, d'un noyau antinucléaire très formé. On le voit bien dans plusieurs documentaires. C'est vraiment, on voit qu'il y a une mobilisation très large de personnes qui, a priori, ne seraient pas forcément politisées.
Oui, mais tout à fait. Mais ça a été le cas. Ça a été le cas dans le Cotentin également. Hein, tous les paysans avec les tracteurs bloqués, les camions, etc., pour faire les travaux. À partir du moment où on construit une industrie comme celle-ci dans un lieu, il y a une révolte populaire qui dépasse très largement le milieu militant. On le voit aujourd'hui à Bure. À Bure, il n'y a pas que des militants qui luttent contre Bure. Quand on va, il y a plusieurs maires, il y a plusieurs élus, il y a des paysans du coin, il y a tout ça qui sont dans le conflit. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes, il n'y avait pas que des anarchistes dans des huttes de bois qui luttaient contre l'aéroport. Les anarchistes dans les huttes de bois étaient associés à des paysans du coin, à des élus du coin, à plein de gens. Donc ces conflits-là, quand on lutte contre quelque chose de nouveau, il y a en général un ensemble de la population locale qui se mobilise. C'est la difficulté qu'a le mouvement antinucléaire par ailleurs, c'est qu'aujourd'hui il ne lutte pas contre des choses à construire. Nous dans la Drôme, on ne lutte pas contre des choses à construire, on lutte contre des choses qui sont déjà construites, qui sont vieilles maintenant et qui risquent de nous péter à la figure. Ça ne fait pas la même mobilisation, quoi. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La lutte de Plogov, c'est une lutte contre une centrale. Et là, il y en a eu plein dans toute la France. Il y en a eu à Crémalville, il y en a eu partout, quoi.
Mais aujourd'hui, alors tu disais que jusqu'à maintenant, on se bat pour la fermeture des centrales actuelles, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Est-ce que tu penses que les conditions sont réunies pour qu'il y ait des mobilisations à Penly, à Gravelines, au Bugey et au Tricastin contre ces projets de nouveaux réacteurs EPR?
Alors là, l'industrie nucléaire et l'État, ils ne sont pas bêtes hein, quand même, ils ont eux tiré des leçons, hein, donc à nous d'en tirer aussi, quoi. Ils ont quand même tiré des leçons. Ils ne vont pas créer un EPR ailleurs que dans la centrale elle-même. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas racheter des terrains pour créer l'EPR à côté, quoi. Donc déjà, ils évitent un certain nombre de révoltes. qui sont les achats de terre, qui sont l'occupation, le fait d'enlever des maisons, le fait de polluer des nouveaux endroits, etc. Ils vont réinstaller ils vont tenter de réinstaller de nouveaux réacteurs sur le site des anciens. Donc là, ils évitent déjà une mobilisation là-dessus. Cela dit, il y aura des révoltes, par contre, plus larges qu'aujourd'hui, dans la Drôme ou dans l'Ain, si jamais l'un ou l'autre est choisi, et si ça se fait, il y aura des réactions, quoi. Mais enfin, ils ont quand même analysé à Flamanville qu'il valait mieux créer l'EPR à côté des deux réacteurs de Flamanville. La réaction de la population autour était quand même moins dangereuse, en sachant en plus que EDF est à 2 à 3 000 salariés autour de ces centrales qui habitent autour. Donc ils ont quand même une partie de la population qui est plus du tout hostile.
Mais d'ailleurs, c'était aussi la stratégie qu'ils ont employée pour la piscine d'entreposage centralisé. Plutôt que d'aller la faire à Belleville-sur-Loire, ils sont partis à La Hague.
Ils les font dans des villes et des villages où une grande partie de la population, des élus, sont issus d'EDF. Hein. Donc ça aide quand même beaucoup leur implantation, quoi.
Alors si je prends un autre épisode de la lutte antinucléaire, et promis ce sera le dernier, celui-là est moins connu. Alors des formes d'action comme les sabotages, les attentats et même les assassinats ont été massivement utilisés contre le projet de centrale nucléaire à Lemoiz, au Pays Basque, par ETA, à la même époque que la mobilisation à Plogoff. Selon toi, pourquoi recourt-on peu ou pas à ces formes d'action les plus radicales ?
C'est pareil, là je crois qu'il faut vraiment... Au Pays Basque, on a affaire à une guerre civile, hein, au lendemain de la chute de Franco, et d'ailleurs à des divergences dans le mouvement indépendantiste, hein, puisque l'ETA se sépare, hein, entre État 5 et État 6, et puis après plein de divisions, etc. Et l'ETA, progressivement, devient un groupe nationaliste, beaucoup moins de gauche que ce qu'il était initialement, et beaucoup moins socialiste que ce qu'il était initialement, parce que tous les militants progressistes avaient quitté progressivement l'État. Donc les méthodes de l'ETA, au moment où ils vont commencer à assassiner deux directeurs de centrales, etc., sont pas soutenues par l'ensemble du mouvement indépendantiste, hein, déjà. Hein, donc voilà. Mais cela dit, bon, il y a une vraie guerre civile, il y a des morts, etc. Et l'État espagnol a préféré enlever cet abcès supplémentaire dans un cadre général. Mais il aura fallu encore plus de 20 ans pour régler. Enfin, en tout cas, pour amoindrir le danger que représentait l'État militaire. Alors, est-ce qu'il y avait ces éléments-là en France ? Enfin, cela dit, ils auraient essayé de créer une centrale nucléaire en Corse, je ne suis pas sûr que les Corses auraient laissé faire, hein, et qu'ils n'auraient pas utilisé des méthodes qui étaient celles du Pays Basque. Voilà. Dans d'autres régions de France, c'était quand même plus compliqué. Et d'ailleurs, même en Bretagne, dans les années 70, où il y avait un mouvement indépendantiste qui était fort, il y a eu quelques bombes, hein, posées en Bretagne, mais enfin bon, c'était plutôt symbolique, il n'y avait pas du tout cette volonté. Donc, je ne suis pas persuadé que cette forme de lutte soit convaincante. Sauf quand on est... Je dis bien sauf.
C'est une question de contexte ?
Oui, c'est une question de contexte politique, bien entendu. Si on a affaire à une dictature mussolinienne, etc., tout est bon. Hein. Tout est bon, voilà. Après, c'est l'analyse que l'on fait de l'État contre lequel on lutte. Et c'est pour ça que l'ETA s'est divisé. Parce qu'à un moment donné, après la chute de Franco, des gens ont dit « on n'a plus affaire au même régime ». Et donc on dit « il faut arrêter les méthodes armées ». Tel que le faisait l'ETA auparavant. Faire sauter Carrero Blanco était juste. Assassiner un cadre ou des élus de gauche, pour certains, enfin de gauche, PS quoi, enfin bon, était plus la même dynamique, plus la même perspective politique. Donc voilà, si demain on a un État d'extrême droite, moi je n'exclus aucune forme de lutte.
Alors, étant donné l'évolution du contexte, et là je pense en particulier au dérèglement climatique, penses-tu qu'on se dirige vers une radicalisation des pratiques militantes ?
Je ne sais pas. Dans mon histoire de militante, la radicalisation, je l'ai tout le temps connue, même plus forte que maintenant. Hein, parce que là, aujourd'hui, ce qu'on appelle radicalisation, c'est vraiment léger par rapport à ce que j'ai connu aux années 70 et par rapport à ce qu'ont connu mes anciens, quand j'étais jeune, qui avaient connu l'après-guerre et puis la guerre d'Algérie, etc. Et puis encore moins que ceux qu'ont connu les années 30. Donc, on ne peut pas dire que la radicalisation, elle va en s'agrandissant, au contraire, aujourd'hui. Hein, on a eu une période assez calme qui se radicalise maintenant, qui donc revient avec des conflits un peu plus durs, mais qui sont encore très éloignés de ce qu'a connu et de la violence qu'a connu le mouvement ouvrier et le mouvement populaire et le mouvement des femmes, etc. Il n'y a encore pas si longtemps que ça. Hein. Dans les années 70, on se battait à l'entrée des boîtes avec les fascistes ou à l'entrée des lycées avec les fascistes. On se battait physiquement. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quoi. Voilà.
Et ben justement, entre tes premières années de militantisme et aujourd'hui, quelles évolutions as-tu constatées sur les pratiques militantes, les idéologies, le rapport à l'identité ?
Moi, je pense que ça évolue pas. Les pratiques, elles évoluent parce qu'effectivement, aujourd'hui, la violence est moins bien perçue globalement dans la société. Donc, aucun courant, même l'extrême droite aujourd'hui, ne peut plus se permettre des choses qu'elle se permettait dans les années 60-70, où ils assassinaient ouvertement, etc. Donc, l'opinion publique, la société dans les pays occidentaux, en tout cas, n'accepte plus ça. Et donc, aucun courant n'y a recours. En tout cas, quand ils y ont recours, c'est vraiment à l'extrême marge, quoi. Maintenant, on ne sait pas comment évoluera tu parlais du climat, dans 30 ans, 40 ans, comment sera la France ? Comment seront des pays qui auront vu leur population se vider pour monter au nord vers le frais? Là, je ne sais pas du tout. Et là, d'autres rapports à la violence existeront probablement, quoi.
Et par rapport à un autre contexte, donc là, je parle du contexte sanitaire nouveau. Selon toi, quelle influence la pandémie de Covid a-t-elle et aura-t-elle sur l'engagement militant?
Alors, aura-t-elle, j'en sais rien. Aujourd'hui, je peux dire que les militants sont des gens optimistes et sont des gens qui aiment le contact social, qui aiment parler, qui aiment l'échange. Et il faut reconnaître que cette espèce de quarantaine, j'aurais été un grand patron, j'aurais même pas osé le rêver. Et aujourd'hui, je serais ravi. Voilà. Donc, pour les militants, c'est une situation aujourd'hui très dure, quoi.
T'as l'impression qu'on réussit à inventer de nouvelles façons de militer ou que en fait on est un peu
on va les inventer.
Paralysé.
Non, on va les inventer, mais aujourd'hui peut-être que les jeunes militants, eux, vont être beaucoup plus cool, souples par rapport à cette situation que nous, quoi. Parce que je disais, nous, on est quand même des gens extraordinairement sociaux, quoi. On a besoin du contact. Et là, aujourd'hui, l'absence de contact est quand même quelque chose qui pèse beaucoup sur une génération militante. Mais les jeunes vont peut-être le faire. Enfin, de toute façon, hein, on évolue. Hein, on est des êtres évolués, hein, depuis que des scientifiques ont montré que la société évoluait. Donc ça évoluera. Mais je dirais que je serais un patron aujourd'hui, je serais ravi.
Alors, et ce sera ma dernière question. Quel conseil aimerais-tu donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'agir davantage ?
Ben, c'est d'agir avec des convictions et pas d'agir par révolte. Pas d'agir... d'agir avec conviction, avec qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire aussi. C'est-à-dire qu'on peut lutter et refuser d'utiliser, même si on peut en profiter, refuser d'utiliser les mêmes armes que les autres, par exemple. C'est pas facile, hein. Quand on a affaire à des violents, ben, on peut ne pas utiliser la violence comme eux. Mais il faut pas. On n'est pas obligé d'être aussi sectaire que les gens qu'on a en face de nous. Voilà, donc c'est défendre ses idées et avec, je dirais, un respect de nous-mêmes qui nous interdit de faire ce que font ceux qui nous oppriment, quoi. Voilà. Alors c'est pas simple, hein, mais moi ça a toujours été ma règle de conduite, c'est-à-dire ne pas être un futur dictateur, quoi. Si demain, par bonheur, mes idées devenaient majoritaires et progressaient, je ne souhaite qu'une chose, c'est de ne pas devenir un nouveau dictateur.
En fait, c'était mon avant-dernière question, parce que tu as dit agir par conviction et pas par révolte. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
La révolte, c'est sanguin, c'est immédiat. On se révolte contre un phénomène, contre quelque chose. Et on peut se révolter aujourd'hui contre les images qu'on voit d'inceste ou des choses comme ça, sans voir d'où ça provient. Voilà, derrière une révolte, on doit chercher à analyser de pourquoi une chose comme ça a pu se constituer. Par exemple, je prends le thème de l'inceste parce que on en parle beaucoup aujourd'hui, à juste titre, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est aussi ce qui alimente les sectes d'extrême droite américaine, par exemple. les Canons, hein, les Q-Canons américains, ils accusent les démocrates américains d'être un groupe d'incestueux et de violeurs d'enfants, etc. quoi. D'être un complot démocrate, pédéraste. Donc il faut faire très attention. Si on se révolte contre ça, on peut tomber dans des fausses révoltes, en fait. Par contre, si on se révolte pour l'égalité, le droit des enfants, si on se révolte pour le droit des femmes, pour de nouveaux rapports entre les individus, etc., là, on construit une conception de la société. Donc une révolte, elle doit se faire avec une... Quelle société je voudrais faire ? Je me révolte contre une société existante, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de comme société ? Si on n'a pas ce « qu'est-ce que j'ai envie comme société ?», la révolte peut être détournée, transposée, détournée. Voilà, on sera révolté, mais ceux qui auront profité de la révolte, ce ne sera pas nous, quoi.
Ok, ben merci à toi Dominique, je te propose qu'on en reste là. Je retiens cette idée de voir vers quelle société on veut aller, ça me paraît important.
Voilà, moi je ne suis, je dirais que qu'un militant, point, je ne suis pas un théoricien.
Merci à toi en tout cas.